un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002. La spiritualité du Père André Hubert, c'est le thème de l'intervention du Père Jean-Paul Russel que nous allons entendre à présent. Jean-Paul Russel est prêtre du diocèse de Poitiers. Ses études d'histoire l'ont conduit à travailler sur l'histoire du clergé au Moyen-Âge. Il est responsable du service diocésain des vocations du diocèse de Poitiers et il assure un enseignement au Centre théologique de Poitiers. Il est également secrétaire du conseil presbytéral et secrétaire général du synode diocésain. Il a publié en 2002 un ouvrage de théologie pastorale aux éditions du Cerf. La spiritualité du Père André Hubert, voici la première partie de l'intervention du Père Jean-Paul Russel.
Alors André Hubert, vous le connaissez mieux que moi, hein, vous le fréquentez depuis toute votre vie, donc... Alors je voudrais vous dire quelques mots en introduction d'abord... Puisqu'on m'a demandé quelque chose sur la spiritualité d'André Hubert, et il me paraît important de dire que la spiritualité d'André Hubert n'est pas un tout constitué à l'origine. C'est l'histoire de sa propre expérience spirituelle et que sa spiritualité, finalement, il a pu la vivre grâce à l'expérience initiale des premières sœurs. Et donc, je crois qu'on ne peut pas oublier ça, comme s'il y avait un en soi de la spiritualité d'André Hubert que les sœurs auraient vécu. Mais lui-même a été façonné par cette expérience première, cette expérience initiale. Donc je crois que ce que vous êtes comme fille de la croix est constitutif de la spiritualité d'André Hubert. Et donc vous me permettrez ce matin de commencer par une action de grâce pour la congrégation que vous êtes, c'est-à-dire par le charisme qui vous constitue, qui vous est donné et qui a une certaine visibilité sociale en différentes cultures, évidemment, par les projets qui sont les vôtres en différents lieux, puisque vous le portez dès l'origine. Et donc vous êtes, et je vous considère comme, moi je vous regarde, un peu comme le lieu de la mémoire. Et je reviendrai sur ce thème de la mémoire, parce que parler de la spiritualité d'André Hubert n'est pas seulement un acte d'histoire. C'est fondamentalement un acte de mémoire. L'histoire, c'est un événement qu'on essaie de ressaisir. Or, la mémoire, c'est d'abord un avènement, c'est d'abord une naissance. Et ce que je voudrais ce matin rendre compte avec vous, c'est de cette naissance. Alors, deuxième chose que j'aimerais dire en introduction, c'est qu'on m'a demandé la spiritualité d'André Hubert Fournet à la lumière de l'école française. Alors, c'était une question difficile, j'avoue, parce que pour les historiens de la spiritualité, peut-on parler de l'école française au début du 19e siècle ? Difficile. Parce qu'au début du 19e siècle, voyez-vous, il y a un croisement de toutes les spiritualités, qu'elles soient ignatiennes ou des différents maîtres de l'école française. Et donc, tirer les fils dedans n'est pas très simple. Et je dois dire que, à la fois, lorsque Sœur Gracie m'a exprimé cette demande, j'ai dit oui avec beaucoup de naïveté, sans doute, mais aussi avec beaucoup d'intérêt, parce que ça m'intéressait de découvrir les fils qu'on pouvait tirer avec André Hubert concernant ses connivences avec l'école française. Troisième réflexion que j'aimerais faire en introduction, c'est qu'appelle-t-on spiritualité ? Il faut quand même qu'on s'explique sur le mot spiritualité. Alors évidemment, on ne va pas reprendre les grandes propositions faites, mais je vais dire ceci. Hein, comment je vais aborder la spiritualité d'André Hubert Fournet ? C'est de cette façon-ci. La spiritualité apparaît comme l'expression de la vie spirituelle, c'est-à-dire de la relation personnelle à Dieu. Et donc, la vie spirituelle se traduit dans une existence humaine transformée. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important chez André Hubert, je voudrais y revenir, parce qu'on a toujours l'image chez lui du tableau qu'on connaît, hein, on le représente toujours. Et finalement, d'une certaine façon, un tableau c'est normal, une image c'est normal, c'est toujours un peu statique. Or, on y découvre un homme en marche et qui a connu des expériences de transformation. On voit bien comment sa vie spirituelle l'a conduit de transformation en transformation. Et je ferai allusion à plusieurs événements. En effet, pourquoi je prends cette définition ce matin avec vous ? C'est que la vie de l'Esprit-Saint renouvelle l'homme tout entier en toutes ses dimensions à la suite du Christ, jusqu'à pouvoir dire avec saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Et pourquoi je vous cite Paul ici aux Galates ? C'est parce que cette phrase de Paul aux Galates, donc chapitre 2, verset 20, était considérée par les maîtres de l'école française comme l'essentiel de la vie chrétienne, comme l'accomplissement du baptême et l'initiation chrétienne. Voyez, je prends cette phrase exprès, parce que cette phrase, elle est centrale chez les maîtres de l'école française, mais aussi, et voyez-vous, c'est intéressant, c'est que dans le discours de canonisation, l'homélie de canonisation de Pie XI, eh bien, cette phrase sera citée. Et voyez, vous avez là déjà un point de jonction entre André Huber et l'école française. Cette phrase, qui est centrale dans l'école française, est citée par Pie XI dans l'homélie de canonisation. Et nous le savons bien, les saints constituent autant de figures exemplaires des chemins possibles pour vivre selon l'Évangile. Et nous nous mettons donc ce matin à l'école d'André Huber, et pour vous, c'est toute votre existence qui est saisie par sa médiation. Alors, je voudrais procéder en trois temps. Il y a un nombre de sœurs, je pense, qui étaient au colloque. Hein.
Quelques-unes.
Alors, vous voyez la difficulté pour l'aborder. Je la redouble encore une fois pour les sœurs qui n'étaient pas là. C'est que André Huber, à la lumière de l'école française, que peut-il y avoir de commun entre Pierre de Béru, les grandes heures de l'école française au XVIIe siècle à Paris, et les lendemains de la Révolution française ici en Poitou ? Hein, c'est ça que je voudrais essayer de sortir avec vous. Que peut-il y avoir de commun entre un homme comme Pierre de Bérulle, hein, qui a eu un rayonnement à Paris et qui jouera un rôle à la cour, qui sera fait cardinal à la fin de sa vie, qui était un mystique, sans aucun doute, dès son adolescence. Hein. Et puis André Huber, curé de Maillé, hein, au fin fond du Poitou, qui était un homme éminemment pratique. Hein, qui constamment va lier sa vie intérieure avec la vie pratique, selon une expression de la lettre 51. Hein? Donc c'est ça que j'aimerais pouvoir tisser avec vous, et puis qu'on pourra échanger peut-être après aussi. Hein? Alors je vais procéder en trois temps. Un premier temps, finalement, chacun d'entre nous, notre spiritualité, elle est née dans une histoire personnelle. Et c'est la même chose pour André Huber. Donc je vais simplement remettre en mémoire quelques événements que vous connaissez bien. Dans un deuxième temps, eh bien, je considérerai ce qui, dans sa spiritualité, consonne avec les grands thèmes de l'école française. Alors, tout de suite une précision, je parle d'école française, je parlerai de l'école bérulienne et du bérulisme, ce sera la même chose, je ferai équivaloir les trois expressions, ça va ? Aujourd'hui, on a tendance, je le sais bien, à parler plutôt d'école bérulienne que d'école française, mais l'expression reste pertinente encore aujourd'hui, en général, les écrits de spiritualité gardent souvent l'expression école française, mais dans mon texte, vous verrez, je vous renverrai à quelques écrits pour celles d'entre vous qui aimeraient aller voir et approfondir ce qu'est l'école française. Et puis, alors, dans un troisième temps, ce qui me paraissait important de regarder, c'est aussi finalement comment s'est faite la canonisation d'André Huber et qu'est-ce qu'on va mettre en évidence. Quel est le contexte de la canonisation en 1933 ? Et qu'est-ce que les discours officiels vont mettre en évidence ? Voilà ce que j'essaierai de faire avec vous dans un troisième temps. Ça vous va comme ça ? Bon, eh ben c'est bien. C'est tout ce que je saurais faire. Alors, l'héritage spirituel, donc, hein, des origines familiales au retour d'exil. L'héritage familial, des origines familiales au retour d'exil. Alors, pour moi, évidemment, je vais m'appuyer essentiellement sur Cousseau. Cousseau va écrire sa note un an après la mort d'André Huber. Qui est Cousseau ? Eh bien, Antoine-Charles Cousseau est né à Saint-Jouin, sous Châtillon, donc à Moléon, grosso modo, hein, à côté de Moléon, hein, vous savez, là-bas, il est né là-bas. Il a fait son séminaire à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, c'est... jusqu'aux années 50. Vous interrogez des prêtres du diocèse qui ont été formés à Saint-Sulpice, aujourd'hui encore, des prêtres qui ont été au séminaire, qui ont été ordonnés dans les années 45-50, le père Joseph Berthaud ou d'autres que vous connaissez peut-être ici dans le diocèse. Interrogez-les sur la formation à Saint-Sulpice à l'époque, c'est très intéressant. On reconnaît vraiment tout à fait l'empreinte. C'était la grande maison de formation des prêtres, c'était le modèle de la formation dans les séminaires. Hein. Donc Cousseau a été formé là-bas à Saint-Sulpice. Il sera professeur au séminaire ici à Poitiers, il en sera le supérieur, il a été vicaire général, et puis il sera ensuite évêque d'Angoulême. Il est né en 1805, il est mort en 1875, et c'est lui qui a écrit cette notice extrêmement intéressante. C'est le texte qui me paraît le plus intéressant sur André Huber du point de vue de l'histoire, parce qu'il est écrit un an après sa mort, donc on a vraiment la tonalité là. De ce temps-là. Alors, par mode de souvenir, beaucoup, par exemple, il dit très bien qu'il ne sait pas exactement la date d'ordination, c'est Jules Sauba qui va nous la donner assez précisément, hein, aux quatre temps de Noël, 76. Mais ce qui est intéressant avec Cousseau, c'est que vraiment, on peut dire qu'il a été un ami, un proche d'André Huber. Il écrit cette notice, donc il a 30 ans, il est professeur au séminaire à ce moment-là, et vous savez que c'est lui qui prononcera l'éloge funèbre aussi. D'André Huber. Et je vous dirai tout à l'heure sur quel sujet. Parce que c'est pas neutre, la phrase qu'il a choisie pour l'éloge funèbre d'André Huber. Donc j'y reviendrai avec vous. Voilà. Alors il dit ceci au début de sa notice biographique. Alors je ne sais pas si Sœur Madeleine est là, mais si elle est là, Sœur Madeleine, ce serait vraiment bien de publier la notice de Cousseau. Je trouve que ces 80 pages, ce serait merveilleux de faire une petite édition critique, ce serait vraiment intéressant, je trouve. Enfin, voilà. C'est au cas où vous n'auriez pas assez de travail. Alors, il dit ceci, Cousseau. André Huber Fournet naquit le 6 décembre 1752 à Péruse, village de la paroisse de Maillet, dont la partie du diocèse de Poitiers qui confine à celui de Bourges. Il eut le bonheur de recevoir dans sa famille les premiers exemples et les premières leçons des vertus chrétiennes. Sa mère, Florence Chasseloup, femme pleine de foi, mettait au premier rang de ses devoirs le soin d'instruire ses enfants de leur religion et surtout de la leur faire aimer. Son père, Pierre Fournet de Thoiré, n'était pas moins distingué dans le monde par sa piété que ses quatre frères ne l'étaient dans l'Église. C'est beau comme formule, c'est bien ramassé, je trouve. Vous le savez, donc, il a quatre frères qui sont prêtres. Hein ? Donc André Huber a quatre oncles qui sont prêtres. C'est son père qui a quatre frères, bien sûr. Hein. Donc je vous les situe tous les quatre, vous le savez sans doute, peut-être déjà. L'un est curé à Reims et va avoir une réelle influence sur lui. Hein. L'autre est curé de Maillet, vous savez bien la raison. Hein. Le troisième a été chanoine à Notre-Dame de Châtellerault. Et le quatrième a été supérieur du couvent des Capucins, à Poitiers, entre autres, dans son parcours. Donc ça donne quand même un réseau familial extrêmement riche. Évidemment, avoir quatre oncles prêtres, enfin pardon de mettre en évidence ce fait-là, va jouer un rôle dans sa propre évolution, même si vous savez bien qu'il n'avait pas particulièrement envie d'être prêtre. Et pendant ses années de droit, c'est une visite à son curé, à son oncle curé d'Ins, qui va constituer un tournant. Et je vous rapporte la phrase de Cousseau aussi, parce que je trouve qu'elle est très intéressante. « L'effet de ces entretiens sur l'esprit du jeune Fournet fut prodigieux. Dès lors, il résolut de quitter l'étude du droit pour celle de la théologie. Sa résolution, une fois arrêtée, le remplit de consolation. Il en fit part à ses parents qui jugèrent aisément par la manière dont ce changement s'était opéré. » On voit bien comment il est transformé. Hein, qu'il ne venait point de légèreté et d'inconstance, ils y applaudirent de tout leur cœur. Je ne sais pas si c'est Cousseau qui interprète ou si c'est la réalité, mais bon, en tout cas, on voit bien qu'il s'est opéré quelque chose dans sa vie qui l'a transformé. Et je vous raconte comment Cousseau témoigne de son adolescence. Il dit ceci, « On l'envoya d'abord au collège de Châtellerault, où il se distingua par l'ouverture et la vivacité de son esprit, et se fit également chérir de ses maîtres et de ses condisciples par la gaieté et l'aimable franchise de son caractère. Il étudiait avec ardeur, mais il se livrait avec plus d'ardeur encore aux amusements de son âge. Nul parmi ses camarades ne savait comme lui égayer une compagnie, animer une récréation. La seconde année de droit, surtout, fut presque tout entière donnée à la dissipation et des amusements frivoles. Comme il portait dans les sociétés un esprit vif et léger, une physionomie agréable qui relevait encore l'élégance, encore l'élégance remarquable de ses manières, il ne pouvait manquer de plaire au monde, et le monde alors lui plaisait beaucoup. En d'autres termes, c'était un adolescent normal, un jeune normal. C'était un jeune normal. Et peut-être c'est bon de pouvoir se le redire, même pour nous, dans la façon de considérer les jeunes d'aujourd'hui. Finalement, la grâce peut travailler de telle sorte qu'elle fasse aboutir des André Huber. C'est quand même assez remarquable. Je trouve ça très bon pour nous, même dans la façon de regarder les jeunes d'aujourd'hui. Alors, il décrit aussi Cousseau, le curé d'Ins, et il dit ceci, je trouve que c'est aussi une belle description sur des prêtres du temps. Il dit ceci, il le décrit comme ça, comme ceci, Cousseau, « vieillard vénérable, qui menait dans sa solitude une vie digne des premiers siècles. Il partageait les revenus de son bénéfice, vous savez qu'on achetait son bénéfice à l'époque, ça viendra jusqu'à Vatican II, ce mode de fonctionnement, heureusement qu'on en est sorti. Il partageait les revenus de son bénéfice et de sa fortune particulière avec les pauvres, vivant à peu près comme eux, entouré de leur respect et comblé de leur bénédiction. Avec cette vie si mortifiée, sa vertu n'avait rien de dur ni d'austère. La charité dont ce cœur était plein animait toutes ses paroles, et son langage avait je ne sais quoi de doux et de pénétrant que j'oserais appeler la séduction de la piété. » Ouais, la piété, c'est l'esprit filial, Donc on peut faire confiance, je pense, à la description à Cousseau ici, parce que évidemment la mémoire diocésaine fonctionnait, donc il le connaissait. Voilà, donc première réflexion, il est issu d'un contexte familial qui l'a soutenu, quoi qu'il en soit, du fait que c'était un jeune, comme les autres jeunes de son temps, qui a eu ses résistances, ses refus sans aucun doute à devenir prêtre lui-même et qui voulait vivre sa vie de jeune homme, aspiration tout à fait légitime. Aspiration tout à fait légitime. N'empêche que le dialogue avec son oncle a été important dans le basculement de sa vie. Deuxième réflexion, finalement, que je voudrais faire ici, alors je voudrais faire la mémoire du diocèse à Poitiers. C'est en 1681 que le diocèse est fondé à Poitiers, le séminaire est fondé à Poitiers, par Mgr Ardouin Fortin de La Hoguette, vous n'êtes pas obligé de retenir le nom, mais je l'ai fait parce que ça me paraissait intéressant, et qu'il a confié le séminaire de Poitiers aux lazaristes, donc au fils de Vincent de Paul. Et il existe alors un autre séminaire également à Poitiers, qu'on appelle Petit Séminaire, mais c'est comme à Saint-Sulpice, il ne faut pas penser Petit Séminaire comme on pensait chez nous, Petit Séminaire depuis le 19e siècle. Lorsqu'on appelait, il y avait le séminaire et le Petit Séminaire, ça veut dire que c'était pour ceux qui avaient moins d'argent souvent pour payer leurs études. Et à Poitiers, il va s'appeler le séminaire Saint-Charles, de Charles Borromée, une des grandes figures réformatrices du Concile de Trente. On a encore l'emplacement, d'ailleurs, où était la caserne Rivaux. C'était là, anciennement rue du Petit Séminaire. C'est toujours marqué sur la plaque, d'ailleurs. C'est là où était ce séminaire. Et alors, dans les petits séminaires comme celui-ci, comme celui de Saint-Sulpice, d'ailleurs, où sera Montfort, par exemple, eh bien, on allait prendre les cours à l'extérieur. Il y avait deux collèges où on prenait les cours à Poitiers. C'était Sainte-Marthe, qui était tenu par des prêtres séculiers, et l'autre, c'était le couvent des Jacobins. Donc, on peut dire, ici, à partir de cette information, puisqu'il n'est de vraie spiritualité qu'appuyée sur une saine théologie, on a deux indices, à mon avis, sur la théologie qui était pratiquée à l'époque. Évidemment, il a connu la somme théologique de saint Thomas, puisqu'il était chez les Jacobins, du même coup. On étudiait forcément la somme théologique de saint Thomas, voilà le fondement de sa théologie. Et la deuxième influence qu'on peut dire, c'est la fameuse théologie de Poitiers. Parce qu'il existait un manuel de théologie ici à Poitiers qui était dû à Jean-Claude de la Poire de Vertrieux, un autre évêque de Poitiers, qui lui-même a fait ses études à Saint-Sulpice. Et ses notes de cours, il les avait gardées. Et il les a mis en forme de manuel de théologie, relu par deux jésuites qui enseignaient à l'université à Poitiers ici. Ce sera, à l'époque, ça commencera sous forme de quatre ouvrages, c'était en quatre tomes, et ensuite en six tomes, en six volumes. C'est une théologie en six volumes, tout à fait intéressante à voir. Dans la bibliothèque d'André Huber, et vous en trouvez quelques volumes, certains en double exemplaire. Et il y a eu une dizaine d'éditions à peu près de cette théologie de Poitiers qui deviendra par la suite théologie de Toulouse. Et cette théologie était enseignée dans la plupart des séminaires en France. Donc la formation classique, finalement, dans les séminaires à cette époque-là, c'était la théologie de Poitiers, on peut dire. Donc André Hubert, évidemment, a connu ce modèle de formation. Si vous voulez consulter, vous avez l'édition complète à la bibliothèque du diocèse à Poitiers. Voilà, donc on peut dire que là, il y a un point de jonction avec l'école française, c'est-à-dire avec Saint-Sulpice. Troisième remarque que je voudrais faire ici, dans ce qui va marquer André Hubert, donc j'ai dit sa formation en séminaire, eh bien, il va devenir vicaire dans cette excellente école de son oncle d'Ins. Son excellente école, la formule n'est pas de moi, elle est de Cousseau. Et c'est très intéressant, voyez-vous. Ça veut donc dire que Cousseau, déjà, lui, à ce moment-là, qui est professeur au séminaire, a bien conscience que la formation au séminaire, une fois faite, tout n'est pas achevé dans la formation. Cette excellente école pastorale, on pourrait dire. C'est-à-dire, il y a bien un jour, il faut faire ses apprentissages pastoraux. Les séminaires, à l'époque, sont sur le modèle des monastères. Il n'y a pas de stages pastoraux, il n'y a pas d'initiation pastorale, ça se fait après, dans le premier poste. Et selon qu'on tombe plus ou moins bien, eh bien, cet apprentissage pastoral se fait plus ou moins bien. Et Cousseau nous dit que c'était une excellente école pendant 3 ans. Et s'il prend ensuite possession de la cure de Saint-Pierre de Maillé, c'est par choix de son oncle, vous le savez, le curé de Maillé. Et voici comment en parle Cousseau. Je vous cite encore Cousseau parce que vraiment je lui fais confiance. Et il dit ceci: « Ceux qui ont connu ce saint vieillard s'accordent à dire que s'il eût su dans la contrée un prêtre plus propre à continuer ses œuvres de zèle, il n'eût pas hésité à le préférer à son neveu pour lui résigner son bénéfice. » Autrement dit, s'il a choisi son neveu, ce n'est pas parce que c'était son neveu, mais c'est déjà par sa qualité spirituelle et pastorale. Je crois qu'il faut le relever. Il faut le relever. Il faut le relever. Et vous le savez bien, c'est peu de temps après que son genre de vie se simplifie jusqu'à l'austérité. Peu de temps après. Vous connaissez cette histoire, bien sûr, hein ? Comment la réflexion d'un pauvre, qu'il entend comme la voix de Jésus-Christ, va transformer sa vie. Et là encore, je vous lis l'interprétation de Cousseau. Comment Cousseau en parle-t-il ? Il dit ceci, voilà comme il le raconte. « Vous n'avez plus d'argent, reprit cet homme, et votre table en est couverte. » Monsieur Fournet fut vivement frappé de cette parole. Sa foi lui persuada que c'était Jésus-Christ lui-même qui lui adressait ce reproche par la bouche d'un pauvre. Et il ajoute ceci: « De ce moment, l'argenterie disparut de la cure de Maillé. On vit disparaître en même temps les fauteuils, les meubles d'éclat, les divers services à table. En un mot, tout ce qui pouvait sentir le luxe ou même l'aisance. » Alors, il me semble que c'est dans cette ligne spirituelle du dépouillement que peut être situé l'exil en Espagne, avec son lot de pérégrinations, d'incertitudes et de recherches. Il me semble qu'on peut très bien inscrire l'exil, le temps de l'exil, dans cette perspective-là. Je ne vais pas développer ces 5 années, vous les connaissez, vous savez quelle a été sa recherche spirituelle à Los Arcos. Son regard vers les Carmes, bien sûr, évidemment. Et puis son retour dans la clandestinité en 97. Bien sûr, les Marcillis, c'est un lieu historique pour vous, un lieu de mémoire pour vous. Et cette très belle phrase de Jeanne-Élisabeth, évidemment, lorsqu'elle se remémore cet événement: « Il s'est fait de grandes choses aux Marcillis, et les filles de la Croix en particulier peuvent vénérer avec une dévotion toute spéciale le coin obscur qui fut pour elle la grotte de Bethléem de leur institut. » C'est bon de se redire cette phrase dans ce temps de Noël. C'est très beau, moi, je trouve, cette façon de relire ces nuits et ce temps de persécution, de clandestinité. Vous êtes donc né dans la persécution, en temps de persécution. Et ici, je repense, je vous citerai peut-être ce matin, je voudrais ajouter 2 théologiens, mais je vais en citer un premier d'abord. C'est Moltmann, un théologien allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Dieu crucifié », publié en Cogitatio Fidei. Et je l'ai entendu un jour dans une conférence raconter ceci, qui est assez bouleversant. Vous savez, les jésuites tués au Salvador, en même temps que Mgr Romero, vous vous souvenez des 5 jésuites qui ont été tués à cette époque-là. Et on lui a écrit un jour de là-bas, les jésuites lui ont écrit, en disant que là, dans la pièce où ils ont été tués, son livre était tombé de la bibliothèque et du sang d'un des jésuites coulait sur le livre. Et c'est comme ça qu'on l'a invité, qui est allé lui-même, qui est un protestant, une comme Moltmann. Donc le lien que je voudrais faire ici, c'est qu'il y a aujourd'hui des pays de persécution. il y a des pays de persécution, et sans doute que votre condition native vous met instinctivement dans cette relation d'une église persécutée encore aujourd'hui. Et j'avais été assez touché de la façon dont Moltmann racontait ça lui-même. Le Dieu crucifié, c'est un très très beau livre évidemment sur la théologie de la croix, qui ne peut pas ne pas résonner avec vous. Alors je voudrais dans un second temps esquisser maintenant la spiritualité d'André Huber à la lumière du bérulisme. Alors il n'y a pas de doute qu'au lendemain de la Révolution française, il y a plusieurs lieux d'effervescence spirituelle qui se détachent en France. Et Poitiers est sans aucun doute l'un de ces lieux. Pardon mes sœurs qui venaient d'autres régions, mais il y a aussi d'autres lieux évidemment, mais simplement je suis ici le témoin de cette histoire de Poitiers. Bien sûr, il y a André Huber, Jeanne-Élisabeth, je ne peux pas oublier évidemment Pierre Coudrin. André Huber donnera des conseils, plusieurs conseils à Pierre Coudrin. On le voit lorsqu'on lit l'histoire de Pierre Coudrin, la vie de Pierre Coudrin, et Henriette aimée de la chevalerie, donc Picpus, en fait, la Grand Maison, où d'ailleurs André Huber enverra plusieurs jeunes en formation dans cette maison de la Grand Maison. Il faudrait citer Madeleine-Sophie Barra, chez nous ici, donc les religieuses du Sacré-Cœur, puisque son premier noviciat a été fondé ici à Poitiers en 1806, marqué sans aucun doute par une spiritualité du Sacré-Cœur, quoi. Mais qu'on retrouvera aussi chez vous, cette tonalité qui existe aussi, sur laquelle je reviendrai. Alors, est-ce que dans ce contexte, pourtant, dès le lendemain de la Révolution française, on peut dire en quoi consiste le bérulisme ? Au-delà de la figure de Bérulle, je vais retenir, si vous voulez bien, ce matin, six traits de l'école française. Sans aucun doute, des influences communes, celles de Saint Jean et de Saint Paul. Là, je crois que c'est clair dans le bérulisme. On lit Saint Jean et Saint Paul, on l'interprète, et Bérulle interprète Saint Jean et Saint Paul avec les pères grecs, à la lumière des pères grecs. Deuxième trait de l'école française, sans aucun doute, une conscience vive de la grandeur de Dieu. Une conscience vive de la grandeur de Dieu. Quand vous allez à Paris, allez à Saint-Sulpice, dans cette église Saint-Sulpice construite au temps de M. Ollier, bon, tout de suite on saisit la théologie sous-jacente à l'architecture de l'église. Troisième accent, une anthropologie qui met en valeur le néant de l'homme pour mieux affirmer la vie du Christ dans le chrétien. Alors, on a parfois taxé de pessimisme, je ne suis pas sûr qu'il faille dire ça, il y a un accent sans aucun doute, mais je reviendrai sur ce qu'on appelle le néant de l'homme dans l'école française, pour mettre en valeur, voyez bien la finalité, mettre en valeur la vie du Christ dans le chrétien. Là aussi, ce sera fort dans certains écrits de Ollier, de Jean Eudes, etc. Un accent particulier sur l'abandon à l'esprit, dans l'école française, on retrouve ça. Une vie mariale fondée théologiquement. Voilà, je crois qu'il y a un trait là aussi important de l'école française. Et puis alors, évidemment, dans l'école française, un sens profond de l'Église. Un sens profond de l'Église qui entraîne un fort engagement apostolique en même temps que la sainteté de vie des prêtres et le souci de leur relève. On a le souci de la relève. Et vous devinez bien que ça ne peut pas ne pas avoir écho au lendemain de la Révolution française, ici, où beaucoup de paroisses sont sans prêtres. Le clergé est âgé, décimé en général. Il y a moins de prêtres en France à cette époque-là qu'il n'y en a actuellement en France. Il faut bien imaginer, quand même. Donc, il n'y a rien de tragique dans la situation actuelle. Oui, je disais que la force de Dieu n'est pas dans le nombre. Je vous invite à aller relire cette belle prière de Judith au livre de Judith, chapitre 9. Et vous trouverez au verset 11, cette belle formule. La force de Dieu n'est pas dans le nombre. Nous sommes si souvent tentés d'interpréter en catégorie mondaine la vie de l'Église et la vie de la foi à la manière des quotas, par exemple, ou des normes européennes, ou de la bourse, etc. Nous sommes tellement marqués par la culture actuelle, qui est une culture quantitative, nous-mêmes dans l'Église, que je ne suis pas sûr que nous portions avec ce critère-là un juste critère. Je ne dis pas qu'il soit neutre, je ne dis pas qu'il ne faille pas le prendre en compte, mais il y a d'autres paramètres plus fondamentaux à prendre en compte aujourd'hui, justement parce que nous sommes dans un monde en mutation. Et que donc nous ne pouvons pas évaluer seulement avec des critères du passé ou des critères quantitatifs. Il y a d'autres critères d'appréciation, discernement à mettre en œuvre aujourd'hui pour connaître la volonté de Dieu, à mon sens, et discerner les chemins par lesquels l'Esprit nous conduit. Voilà ce que je voulais livrer à votre réflexion. Alors, je vais simplement m'appuyer sur les lettres publiées par André Huber. Je ne ferai pas les détours historiques sur sa propre vie et sur sa façon d'exercer son ministère pastoral. Ce serait à faire, pour avoir un deuxième pied par rapport à ce que j'ai fait, ce serait à faire. Mais bon, je ne l'ai pas fait là. Je vais me contenter donc des lettres d'André Huber et des premières constitutions qui ont été les vôtres. Alors, d'abord pour dire ceci, c'est que dans les lettres d'André Huber, pas une seule fois, il n'y a cité l'un des maîtres de l'école française. Et j'allais vous dire quels sont ces maîtres de l'école française, évidemment. Après Bérulle, c'est Condrin, les oratoriens. Jean-Jacques Ollier et les sulpiciens. Vincent de Paul et les lazaristes, qui se situent plus ou moins dedans, mais enfin, disons. Il faudrait citer Jean Eudes, évidemment, et les eudistes. Et à Poitiers, on ne peut pas ne pas citer Grignon de Montfort, qui est le dernier des grands béruliens. On appelle les grands béruliens. Montfort, c'est évidemment le dernier. Et sa prière embrasée, qui est très belle, et qui fait écho au prêtre de feu que souhaitait Jean-Jacques Ollier, le curé de Saint-Sulpice, qui fondera son premier séminaire, 1641-1642. Alors, il n'y a pas les maîtres de l'école française ne sont pas cités par André Huber. Qui c'est-il? Eh bien, ce que j'ai repéré dans ses lettres, Bourdaloue. Deux fois, le Jésus de Bourdaloue. Il cite François de Sales une fois, Jean de la Croix une fois, saint Thomas d'Aquin qu'il donne en exemple à un des enfants qu'il a ici, à un de ses élèves, dans la lettre 127. Il fait allusion à la lettre aux Romains d'Ignace d'Antioche, très belle lettre évidemment, d'Ignace d'Antioche, là. Sa lettre aux Romains, lorsqu'il va être broyé sous la dent des bêtes, qui raconte son martyr. Et puis, bien sûr, plusieurs fois, il fait allusion à la vie et à la mort de Saint-André, et la croix de Saint-André. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ces lettres, c'est la façon dont il tisse ensemble le bon sens pratique et les questions d'organisation, sa sollicitude pour les filles de la croix et ses conseils spirituels, les examens de conscience qu'il propose par un jeu de questions et d'allusions à une phrase biblique. Car l'Écriture n'est jamais nommée explicitement, entre guillemets, avec la référence, vous avez remarqué ça, mais l'Écriture, pourtant, sous-tend constamment son propos. Il y a un thème majeur qui se détache clairement, c'est la référence à Dieu. Et le théocentrisme, évidemment, c'est la porte d'entrée dans la spiritualité de Bérulle. Donc ça, le théocentrisme, voilà, ça c'est radicalement bérullien. Mais on pourrait dire aussi que c'est très évangélique. Le Notre Père est évidemment théocentrique, et nombre de récits évangéliques, évidemment, nous mettent directement en présence de Dieu. Donc la porte d'entrée, me semble-t-il, c'est la référence à Dieu, mais la référence à Dieu comme Trinité. Et l'expression « Sainte Trinité », « Très Sainte Trinité » revient plus de 40 fois. Plusieurs postures de foi sont indiquées par l'usage des verbes, pour parler de la Trinité, aimer, honorer, remercier, adorer, louer, offrir, croire, converser, méditer. Ce sont les verbes les plus fréquents que l'on trouve. La Trinité est nommée comme une présence. Elle est nommée comme une habitation, je le cite toujours. Où il dit encore, il s'agit de favoriser l'union et l'entretien avec elle. Et il ajoute encore ailleurs, quand on a la source, on se passe volontiers des ruisseaux. Et le thème de Dieu comme source est assez classique chez les pères grecs. Je vous renvoie volontiers à Grégoire de Nazianze. Je vous l'ai mis en note, je vous ai cité tout ça. Donc vous irez voir, mais chez les pères grecs, évidemment, comme on n'a pas de mots de... Comment dire, on n'a plus les mots pour parler de Dieu, on parle en image, par mode d'image. Et l'image de la source est une image que les pères d'Orient utiliseront pour parler du Dieu Trinité. C'est donc un langage de vie et de relation qui est utilisé. Pour lui, ce langage a des implications éthiques, et je vous le dis volontiers ce matin, puisque c'est vous qui le dites, que votre union avec vos sœurs soit à l'image de la Sainte Trinité. Voilà une belle phrase à méditer communautairement. Mais ce langage ne se limite pas au mot Trinité. Il s'agit véritablement, dit-il encore ailleurs, que votre cœur croise dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a une nomination explicite des trois personnes de la Trinité. Alors, on le retrouve également une quarantaine de fois, cette nomination explicite, soit sous mode de confession de foi, soit sous forme doxologique. Ou encore, la confession de foi est plus développée, on le retrouve 3 ou 4 fois également, je vous l'ai mis dans quelle lettre en note. Gloire au Père, je le cite, gloire au Père qui m'a créé à son image, voilà la création. Gloire au Fils qui a donné sa vie pour moi, qui m'a donné son cœur. Ah, le salut est bien pour moi, rédemption. Gloire au Saint-Esprit qui demeure en moi pour m'assister en tout. Ah, c'est celui qui m'assiste, l'Esprit-Saint. Ouais. Donc, c'est celui qui atteste en moi aujourd'hui la vérité de ma foi. Donc, très belle formule, très riche. Hein. Donc, premier thème qui se détache très clairement, c'est la confession de foi trinitaire, sous mode de confession de foi, effectivement, ou sous mode doxologique. Là, on est bien dans une perspective de l'école française. Mais puisqu'on est à Poitiers, la confession de foi trinitaire, on ne peut pas ne pas la rapporter à Hilaire. Deuxième thème qui me semble se détacher au regard de l'école française, eh bien, c'est la concentration christologique qu'il utilise avec deux verbes, former en soi Jésus-Christ et l'imiter. Par exemple, que votre premier soin soit de former en vous Jésus-Christ. Alors là, on a un thème paulinien. Voyez-vous, là, on retrouve vraiment saint Paul. J'ai développé, vous verrez, vous irez voir dans mon texte. Mais je me suis aperçu en regardant chez saint Paul que ces deux verbes, imiter et former, finalement, sont très proches l'un de l'autre et qu'ils peuvent s'interpréter mutuellement. Je ne vais pas le faire avec vous ce matin, on ne va pas être trop long, puis ce n'est pas directement le sujet. Mais je trouve que André Hubert nous invite à relire saint Paul. Il cite là, dans cette perspective christologique, il cite volontiers, il cite plusieurs fois l'événement de la crèche, ben c'est l'occasion puisque nous sommes à Noël, mais il s'attache surtout à la croix et au crucifié. Et le nom même de fille de la croix atteste la fécondité de la Via Crucis. Pour lui, il y va du sens même de la vie apostolique. C'est ainsi qu'il écrit à l'abbé Tori, donc le curé de Chauvigny, qui sera son coadjuteur ensuite, et le supérieur des filles de la croix. C'est le partage des apôtres que je vous offre, la croix. Pour André Hubert, la radicalité évangélique appelle à se dépouiller de soi pour revêtir Jésus-Christ. Voilà encore un thème paulinien. On voit bien le dépouillement de soi. En référence à sa propre expérience de dépouillement de lui-même, à cause même de ce pauvre qui l'a visité, à cause même de l'exil qu'il a connu. Il est véritablement sur cette ligne du dépouillement de soi pour revêtir Jésus-Christ. Tel est le chemin du disciple. Si la croix dévoile le vrai visage de Dieu, tel qu'on le lit dans ses lettres, elle donne aussi de se connaître personnellement. Il dit ceci, lettre 56, « La croix la plus pesante pour vous est celle de vos défauts. » Voyez, acceptez nos défauts comme cette croix qui est sur notre route aujourd'hui. Voyez, là encore, les défauts, ce n'est pas qu'une question psychologique. Ça peut être vécu d'une façon spirituelle. C'est à la lumière de la croix qu'il le relie lui-même. Voyez. La foi est ainsi comprise comme une foi pratique. C'est là qu'on reconnaît le pasteur. L'invitation à jeter les yeux sur le crucifix, je le cite là, encore plus sur le divin crucifié lui-même, ne peut pas être séparé de la résurrection. Notez bien, fille de la croix, mais il porte le regard sur le crucifié. Mais il ne le sépare pas pour autant de la résurrection. Et je le cite, « Nous ne vivons plus pour nous, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. » Et c'est ici que un tel chemin spirituel invite à reconnaître, je le cite, son néant, pour mieux souligner la grandeur de Dieu. Et je le cite dans une des lettres, voyez-vous. Le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de Pâques ont dû mettre dans votre âme des lumières qui vous ont convaincu de plus en plus du néant du monde et de la grandeur de Dieu. Et pour l'école française, l'anéantissement, c'est la forme extrême de l'humilité. Le néant ne consiste donc pas à se détruire, mais à se considérer comme rien en s'oubliant soi-même. Et c'est cette invitation à constamment faire passer l'autre devant, avec un grand A. Parce que c'est le grand A qui fait découvrir le petit A de l'autre, en tant qu'il me dévoile quelque chose du mystère du Christ. Ou encore, pour prendre le langage bérulien, cela passe par un chemin de purification ou encore d'abnégation intérieure pour devenir, dit Bérulle, pure capacité de Dieu. Voilà une formule de Bérulle. Jusqu'à devenir le néant. Vous voyez la finalité du néant, c'est jusqu'à devenir pure capacité de Dieu. Voilà, une formule que vous trouverez chez Bérulle, par exemple. Et là, vous voyez bien que l'école française s'enracine chez saint Paul. Saint Paul lui-même atteste cet anéantissement, cette kénose du Christ en Philippiens 2:7. Il s'est anéanti, ekénosène en grec, hein, d'où le mot kénose. Il s'est anéanti. Et vous savez que Bérulle, qui lui-même est bouleversé par ce verset, le faisait chanter tous les jours avec ses premiers compagnons à l'oratoire. Il faisait chanter, ce verset était chanté tous les jours à l'oratoire. Ainsi, dans la ligne de l'école bérullienne, cette spiritualité de la croix et cette centration sur le visage du crucifié permet d'une part d'indiquer le néant du monde et d'autre part, vous voyez, le néant du monde par rapport à lui qui était séduit par le monde. C'est pour ça que je vous ai cité Cousseau tout à l'heure, c'est pour vous permettre de faire le lien entre la façon dont Cousseau le décrit comme adolescent et là où il en est aujourd'hui maintenant dans sa vie spirituelle ici. Eh bien, ce langage du néant permet d'indiquer le néant, ce langage de la croix, pardon, permet d'indiquer le néant du monde et d'autre part de mettre en valeur la grandeur de Dieu dans l'événement pascal. Et c'est la suite de l'hymne aux Philippiens. Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom au-dessus de tout nom. Et là, me semble-t-il, avec Philippiens 2:7 et puis la suite, 8 jusqu'à 11, on voit bien le cheminement par lequel a été conduit André Huber depuis son adolescence. Alors, troisième trait important pour nous, je crois, c'est à cette lumière de la croix et de la résurrection, donc du mystère pascal, qu'il est possible d'interpréter le langage de mortification et de renoncement largement utilisé par le père Fournet. Évidemment, le langage qu'il prend, il faut le resituer au début du 19e. On ne peut pas le relire de nos hauteurs à nous, ce serait faire de l'histoire à contresens. Il faut le remettre dans le contexte. Et ce langage de mortification et de renoncement traduit le combat spirituel qu'il convient de mener contre soi et contre le péché. C'est donc ce thème du combat spirituel que je voudrais privilégier ici, parce qu'il est très beau, à mon sens. Son langage est très intéressant.
Vous venez de suivre la première partie de l'intervention du père Jean-Paul Russel, prêtre du diocèse de Poitiers, première partie consacrée à la spiritualité du père André Huber. Mardi prochain, aux mêmes heures, 10h, 16h et 21h, vous entendrez la suite et la fin de l'intervention du père Jean-Paul Russel. Un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint André Huber Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002.